Georges Icoude, le moulin horloge, et le verbe s'est fait chair. Je sais un moulin broyant aux infâmes le pain de l'expiation. Point d'aile qui batifole au vent salubre et frisquet des espaces. Rien du moulin à toit pointu comme un capuchon par-dessus lequel les belles filles jettent leur blanc bonnet. Du moulin campé sur la butte ou la digue, regardant croître les moissons et la marée. Ni du moulin romantique, du moulin à eau des balades, trempant ses palettes dans les cascades folles et s'éclaboussant avec un grondement de tonnerre bon enfant. Du moulin montagnard qui séduit gaves et ruisseaux en écume plus blanche que la farine. Jamais de bergamasque mitron n'emprunte allègrement le chemin, un sac sur l'épaule. Jamais de pimpante meunière, affligée d'un meunier jaloux, ni coquette avec les chasses mulets et grillards. Non, c'est le pire moulin de sans souci. Car de quoi pourrait bien se soucier les patentés et inamovibles canapsas? Je suis une horloge palpitante et convulsive, une horloge en peine comme une âme, marquant l'heure, exclusive et spéciale, à des trappistes involontaires qui firent un emploi subversif de leur temps et de leurs bras. Mouvement de l'horloge, mouvement du moulin se confondent, battant le même tic-tac. C'est de la farine qui s'écoule dans ce sablier fatidique. Horloge et moulin ne font qu'un. Il y a 5 ans, je vis ce moulin horloge, et depuis ne parviens pas à l'oublier, et depuis, mon pain flétri de farine peu suspecte a contracté une indélébile amertume de larmes et de sueur. Et depuis, toutes mes heures sonnent au cadran des irréguliers, et comme une épave, je flotte à la dérive. Je sais un moulin sinistre que desservent les incompatibles moulants maillotés de gris terreux et de fauves comme des bêtes puantes. Nos ordres et d'étrangers, la société les étrange. Ils sont jeunes, copieux, pleins de vie, mais tarés pour le reste de leur jour. Il n'est un abatiste à ce dit efficace qui leur confère une nouvelle virginité légale. Il n'existe au lustral assez léditive, au régal assez convulsive, pour laver leurs stigmates. Est-elle à contagion de leur turpitude que leur rédempteur devienne leur complice? Manutention unique. Meunier contre nature, ne moulant de blé que celui de leur propre pain. Depuis ma naissance, j'appréciais bien des appareils, découvris nombre d'engins funèbres, d'ustensiles et d'outils plus condamnables et plus meurtriers que des armes avérées. Souvent, je parcourus des ateliers ressemblant à des arsenaux ou à des champs de torture. Mais nulle part, rien ne me troubla comme ce moulin horloge dont la grouillante épure me délabre. Mon guide préjugeait-il mon impression? Il usa de précautions oratoires, recourut à d'extrêmes ménagements avant de me conduire devant cette suprême scène d'ilotisme. Le digne homme m'y prépara comme à la nouvelle d'une catastrophe. Il paraît que tous ceux qui affrontèrent la même géhenne en sortirent blêmes et défaits. Dans ces conditions, qu'adviendrait-il de moi? Conformément à l'itinéraire, on monte d'abord dans les combles. Le grenier ne contient, outre la provision de céréales, qu'une manière d'auge en forme d'entonnoir, de la contenance d'un sétier, et dont la pointe s'engage à travers le plancher, dans le corps de la machine fonctionnant en dessous. Les meules invisibles mettent le plancher en trépidation. Il est temps de remplir la trémie lorsque cesse le ronflement souterrain. Aussi, en attendant que la mesure en soit écoulée, 2 servants apathiques, affalés sur des sacs, sommeillent ou magnaudent. Et si le brusque silence du moteur, cessant de leur chanter sa berceuse, ne les arrache pas à leur indolence, un coup frappé contre le plafond ou un juron caverneux, venant d'en bas, les rappellent en sursaut à leur office périodique. C'était la trémie banale et anodine de tous les moulins, et les deux fêtards chargés de l'alimenter ne risquaient guère de succomber à la tâche. À notre entrée, empressés, mais maussades, ils s'étaient mis debout et en position militaire, par respect. Je fis la moue, ébauchai un imperceptible mouvement d'épaule, voulant dire « Pauvre, le terrible moulin, le pitoyable meunier, en vérité !» Mon inquisitorial conducteur surprit ma pensée, et avec ce sérieux et frigide sourire professionnel des gardes malades et des geôliers. « Oh, doucement, cher monsieur, n'augurez pas trop favorablement de ce préliminaire. Comme j'ai eu l'honneur de vous en avertir, le moteur de ce moulin est extrêmement particulier, je dirais même excessivement particulier. Puissiez-vous vous familiariser aussi promptement avec les autres organes de l'appareil, avec la cause qu'avec l'effet. Notez bien que vos répulsions probables seront toutes physiques, toutes nerveuses. Lorsque nous sortirons du laboratoire, pour peu que vous réfléchissiez au motif de cette révolte sensorielle, vous conviendrez que c'est surtout l'apparat, la mise en scène et peut-être le symbolisme de ce travail qui rebute et crispe vos fibres affectives. En y regardant de plus près, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat ou plaindre un malandrin. Mirage, simple mirage, je vous assure. Illusion d'optique sentimentale. Mais nos contemporains envisagent le réel à travers une lentille grossissante, montent le cou, nourrissent de si subtiles délicatesses, préjugés si morbides et appréhendant d'occultes actions dans les conjonctures les plus naturelles, deviennent plus irritables, plus chatouilleux qu'un écorché. Pendant ce nouveau préambule, mon introducteur soulevait une trappe et nous descendions un escalier en colimaçon. Arrivés au bas, il s'arrêta encore, la main posée sur le loquet, comme pour m'accorder une dernière minute de grâce. Puis il poussa brusquement la porte et la battit après m'avoir fait passer devant lui pour me couper la retraite. Nous nous trouvions dans une vaste pièce carrée, relativement basse, qu'éclairait fallacieusement un rang de quatre fenêtres offusquées par de poudreuses toiles d'araignée. Mais il y flottait encore plus de brume que de ténèbres. D'abord, j'avais écarquillé les yeux, sans rien voir. Je perçus le courant d'air d'un mouvement giratoire. Des ailes ou des volants passaient en me frôlant de leur haleine. J'entendis roquer et corner une sorte de locomobile, sans suspecter le moins du monde que cette rumeur haletante, rythmique, pouvait prévenir d'une batterie de poitrines humaines. Puis, autour de l'arbre de couche, emboîté dans le corps du moulin, masqué par un travail de charpenterie, je distinguai une énorme roue horizontale, une lourde roue sangeante et à 10 raies. À mesure que cette masse tournait, de compacte, elle devint grouillante et articulée. J'y démêlais des tronçons humains et vivants, tantôt un torse, tantôt une cuisse, maintenant une paire de mollets, et aussitôt après des poings convulsés et encore un profil, un galbe, la tache d'un col athlétique, la rondeur d'un menton, le méplat d'une tempe et souvent rien que le rictus d'une bouche, la gonade rouge des lèvres, l'émail d'une mâchoire, la flamme d'une prunelle. Un instant encore et ses ébauches se précisèrent. Les silhouettes prirent corps, les membres épars se réunirent et me représentèrent une trentaine de garçons robustes, de fiers encolures, actionnant, trois à chaque raie, la roue immense et pesante. Penchés en avant, empoignant les raies comme des bras de levier et de treuil, pesant de toute leur énergie sur le manche, ils poussaient, marchaient au pas, balançaient les hanches, la croupe relevée, de l'allure boutonnière et passive d'une bête de somme. Ils rôdaient, rôdaient sempiternellement, sans proférer une parole, mais non sans renâcler, comme ces rosses aveugles qui manœuvrent des chevaux de bois et pour qui le carrousel forain représente le vestibule de la fourrière et de l'enclos d'écarissage. Uniformément vêtus de vestes courtes, découvrant la saillie et la rondeur durable, leurs têtes glabres et rases coiffées d'un bonnet rond, ils viraient pour virer encore et toujours. Leurs cheveux soyeux ou crépus, ces cheveux d'adolescents, orgueil de leurs mères imprévoyantes, tombèrent pitoyablement sous les ciseaux affectés en cette colonie à la tonte des ouailles. Et aussitôt, à les voir bretauder et poupard, on se demande quel Dalila de grand chemin livrèrent ses sansons à la rancune de notre bourgeoise philistine. Pour plus de commodité, la plupart ont retroussé leurs manches et quitté leurs sabots. Ils sont donc 30 pandards charnus, 30 frelampiers dans la fleur de l'âge qui émeuvent le moulin. Chaque fois qu'ils passent devant moi, un de ces moteurs humains, toujours le même, lance à haute voix le chiffre des révolutions exécutées par l'équipe. Il est l'aiguille principale de cette horloge, l'annonciateur des minutes révolues, le timbre monotone et discord, funèbre comme un glas. Ainsi tintent les clarines au fanon des vaches égarées et coassent les clarinettes funambulesques. Et chaque fois qu'il braille, 1, 3, 7, 13, c'est une minute à la sinistre horloge. Et chaque fois qu'il arrive à 200, c'est une heure à l'horloge de la malchance. Alors il se tait et s'arrête tout court. Le surveillant réveille les deux clampins du grenier et au-dessus un sac de grains s'écroule dans la trémie. Et je remarquai qu'en nous jetant le chiffre de ses rotations, le compteur se détournait de notre côté et que ses partenaires environs nous envisageaient à leur tour. Malgré le clair-obscur, la brume et la poussière, ses yeux m'ajustent et me pénètrent. Il y en a de phosphorescent et de velouté, de mouillé comme une pelouse crépusculaire, d'aigu comme l'abysse de décembre. Les uns, câlins et raccrocheurs, évoquent le luminaire des alcôves. D'autres angoissent et fascinent ainsi qu'une lanterne de coupe-gorge. Et dans ces visages glabres, blanchis par les longues claustrations, les yeux les plus pâles, les yeux d'azur et de rosée, paraissent ténébreux et nocturnes. À mesure que le nombre des révolutions augmente, le marqueur clame d'une voix de moins en moins assurée. Et conjointement, ses compagnons ralentissent le pas, élargissent leurs jambées, s'arc-boutent, se calent avec plus d'effort, et en s'arrêtant sur moi, les prunelles deviennent de plus en plus appelantes. Au dernier tour, la roue gémit, s'enlise, ne démarre qu'à peine, les propulseurs piétinent sur place, marquent le pas. Ce qui se déhanchait et se carrette avec une certaine jactance s'alanguissent, se relâchent, sourires ambigus, moues veloureuses, dégénèrent en une grimace de détresse. 200, halte! Un tour de plus et ils croulaient. 30 nouveaux colons disposaient ces journées, qui, adossés aux murs, badaudaient et bras croisés en attendant le moment de tourner à la meule, relèvent leurs camarades exténués. Ces remplaçants se bousculent avec un empressement inconcevable. Ils se disputeraient même les places à la roue. Ils se battraient pour entrer dans la coursière, si le roulement n'avait été réglé d'avance et si les gardiens n'intervenaient dans les compétitions. Et la corvée rapporte à ses bannis les quelques centimes nécessaires pour se procurer à la cantine le tabac et d'autres douceurs. À la fin de la semaine, ils palpent leurs moutures en ces grossiers méraux de plomb, monnaie fictive des colonies pénitentiaires. Et voilà pourquoi, jamais en notre pays matériel, limier de traits, jappant de plaisir, frétillant de la queue, prodigue de caresses, Au moment où le maraîcher brutal ou le garçon boulanger sournois les attellent sous la charrette surchargée, ne témoignèrent impatience plus fébrile et plus inattendue que ces fils de chrétiens appelés à remplir cet office bestial. L'état lamentable de ceux qu'ils suppléent ne les rebute pas. Et même si de nombreux relaines guettaient l'instant de s'atteler à la machine, à peine relevés de corvée, leurs frères, rendus à bout de force, retourneraient avidement à ce supplice rémunérateur. Remontée après chaque heure, l'horloge se remet en mouvement avec une intrépidité nouvelle. Les aiguilles fraîches évoluent sans accroc, les barres craquent sous les poignes affermies, les pieds se lèvent et retombent en cadence, la voix du nouveau marqueur, le timbre de l'horloge résonne plus franchement. Mais peu à peu, la gorge du compteur se resserre et se voile. L'impulsion se ralentit. Les visages épanouis se contractent. Je vois des gouttelettes sourdes à leur front. Les muscles se bandent moins facilement. La respiration s'embarrasse. Les yeux affleurent aux orbites et les têtes penchent vers les croupes qui les précèdent. Quelques tours après, les corps charnus fument comme des chevaux de labour et se noient dans leurs propres effluves. Une troublante vapeur d'étuve et de chambrée sature le manège. Le crissement des dents, le hannèlement des poitrines couvre le rond félin des meules. La psalmodie du compteur n'est plus qu'un râle. Combien nombrais-je de fois 200 tours? Combien s'écoulèrent de ces heures excentriques? Combien de fois les moteurs rompus, écartelés, firent-ils place à des organes nouveaux? J'ignore aussi bien la somme des voix sonores et cuivrées que fait cette horloge patibulaire. Et cette procession de physionomie, qui me sourire, moitié sardonique, moitié filiale, qui m'implorèrent en se dirigeant obstinément de mon côté, qui repassèrent chacune 200 fois, toujours plus pressante et plus pitoyable, avant de se dissiper, dans quel limbe inexaucé. Sans cesse se reformaient d'autres cortèges de patients, et les nouveaux venus rappelaient, sans les répéter, leurs obsédants prédécesseurs. À chaque relais, je regrettais ceux qui ne défileraient plus, et pourtant, à peine les fraîches recrues s'étaient-elles mises en marche, que je ne vivais plus que par elles et me suspendais à leurs mouvements. Pupilles dilatées où alternèrent tant de lumière et tant de nuit. Regards inconciliables qui désarmèrent et s'attendrirent peu à peu. Sueurs plus lamentables que des larmes de vierge. Fluides et des aberrations majeures. Aux approches du 200e tour, les meules, cessant de broyer le grain, semblaient se retourner contre leur moteur et moudre et mordre avec la rancune de la matière électrisée cette chaude et copieuse levée humaine. Mais le moulin avait beau réduire et fouler ses boulons, la liste en était inépuisable. Il y avait toujours des ressorts et des mouvements de rechange. Je restais sur place, ne pouvant, ne voulant bouger, me remettant à compter à chaque nouvelle réparation les 200 minutes de l'heure abominable. Et lorsque la voix du marqueur s'étranglait, que la buée s'épaississait jusqu'à me dérober les formes de ces patients bien-aimés, je souffrais, m'épuisais, me fondais comme eux. La langueur de ces jeunes corps descendait dans mes reins, le long de mes vertèbres. Ses yeux vidaient mes os, pompaient ma moelle. Ses bouches aspiraient mon reste de souffle. Ses regards conjurateurs m'avaient imprégné de leur détresse. Ses lèvres jaculatoires m'enthuisaient de leurs tièdes et poignantes implorations. Les effluves de cette adolescence déchue me damnaient, me réprouvaient avec elle. À quelles extrémités m'auraient entraîné ce vertige? Leur rédempteur deviendrait leur complice. Quand mon guide, effrayé de mon mutisme et de mon inertie, me signifia que les ateliers se fermaient et m'arracha presque de force à cette dissolvante atmosphère, j'étais plus ivre qu'après une valse effrénée. J'avais vieilli d'au moins 10 ans et je ne sais quelle force, quelle énergie, quelle sève j'avais dilapidée, quelle portion de mon être avait neutralisé ces passions et s'était éventé à leur approche. Un immense dégoût m'avait pris de tout autre milieu et de tout autre temps. Le soleil m'offusqua. Je trouvais la liberté superflue et même la vie. Désormais, nul exorciste ne serait assez puissant pour combler le vide universel. Je sais un moulin broyant le pain de l'infamie. Je sais une horloge au rouage de chair pantelante, au mouvement saccadé comme un spasme. Horloge et moulin ne font qu'un. Le moulin horloge marque une heure exclusive à des trappistes involontaires. Les honnêtes gens diront à la plus abjecte des poutrailles. C'est à Merxplas, là-bas, tout au fond de la campine. On les a parqués et numérotés. Ils sont plus de 2000. Et depuis ma confrontation avec ce mirifique phénomène du moulin horloge, mon pain a contracté une amertume indélébile. Et quoi que j'entreprenne, toutes mes heures sonnent au cadran de la malchance.